bien du monde d'avant. Guy Vantil sur France Inter.
Lithium est devenu l'espoir de la Bolivie.
Épisode 5.
Bolivie, le désert de sel, le quinoa et le lithium.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second volet de notre voyage dans les hauts plateaux boliviens autour du Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel au monde, perché à 3800 mètres d'altitude. Dans cette partie des Andes qui subit de plein fouet le changement climatique, si haut près de l'équateur et si près du soleil, l'augmentation des températures y est deux fois plus importante que la moyenne mondiale. Mais si le fond de l'air est chaud dans l'altiplano, la Bolivie est aussi furieusement dans l'air du temps, grâce à quelques-uns de ses atouts convoités dans le monde entier, même si c'est au risque de la surchauffe. Car ce pays le plus pauvre d'Amérique latine a aujourd'hui une graine d'or et de l'or blanc. Du quinoa pour manger écolo bio et du lithium pour faire rouler les autos. Et ces deux trésors n'ont pas manqué de réveiller les fantasmes de nouveaux Eldorado. Le lithium, parce que le Salar abrite le plus grand gisement au monde de ce métal alcalin indispensable à la production des batteries. Et que la République plurinationale de Bolivie a fait le pari un peu fou d'exploiter toute seule, sans passer par les multinationales et leurs actionnaires. Et le quinoa, ces petites graines cultivées traditionnellement depuis des siècles parce qu'elles résistent à l'altitude, au gel et à la sécheresse, jusqu'à ce qu'en 2013, l'engouement suscité par l'année internationale du quinoa ne provoque une flambée des cours sous l'explosion de la demande internationale. Les prix sont montés jusqu'à 9000 euros la tonne, alors que le blé en faisait moins de 180. Du coup, tout le monde s'y est mis, à commencer par le Pérou voisin. Résultat, la production a grimpé et les prix se sont effondrés. Bref, les lois du marché se sont imposées, mais pas toujours au profit des paysans de la région, où se tient chaque samedi le marché de Chayapata, l'autoproclamée capitale internationale du quinoa. Et c'est justement là où on va. Je reviens du monde d'avant, en Bolivie, comme dans un western, le désert de sel, le quinoa et les batteries au lithium.
Je reviens du monde d'avant.
Toca se cambia vidrios templados para el celular a 5 bolivianos.
Lápiz, esmalte, pinta uñas.
Chayapata, capital de quinoa.
Señora, venga por este lado, aproveche, aproveche. A degustar se dijo, ahí está. Jugo, jugo de caña, caña natural, amigo, amiga.
Cette palette vient de parcourir près de 8000 kilomètres.
La quinoa.
C'est la quinoa réelle, la quinoa royale.
La petite dame, elle avait un peu peur de s'arrêter pour nous répondre. Elle nous dit, c'est par la polaya.
Donc, quinoa de Bolivie, c'est vraiment le quinoa, le best qui existe au marché aujourd'hui.
On va aller au carrefour là-bas.
Au sud du pays.
Un peu à l'écart de ceux qui vendent des fruits et légumes.
Dans la région de l'Altiplano.
Señora caballero, oiga joven, Aquí te trajimos los deliciosos jugos de caña castrita.
Il y a le monsieur qui presse la canne à sucre.
Jugos de caña dulce.
Oh. Oh, le bruit, la poussière.
Aquí es la capital de la quinoa.
Alors ici, c'est la capitale du quinoa. Et...
pueden comprar, reunir y llevar. Et un camion, donde quieren llevar.
Ici, le quinoa, ça s'exporte dans le monde entier. On les met dans un camion et ça part.
Depuis quelques années, c'est la ruée vers le quinoa.
Eh ben voilà, ça c'est des sacs quinoa real organico.
La France est même devenue le deuxième importateur du monde, derrière les États-Unis.
Il y a une dame qui porte des pots de lama.
Et le premier d'Europe avec plus de 3000 tonnes par an.
Là, ben, il y a une transaction qui est en train de se faire. Là.
Pour la quinoa.
On peut voir vos grains, si c'est de la bonne qualité.
Si.
Ah, c'est beau. C'est des petites graines, on dirait presque du pollen, jaune, orange, blanc.
Oui, varios colores. Hay blanco, amarillo, toledo, pantela.
Tienen varias clases. Son, hay negra, hay blanca, amarilla, pantela.
Dans ma communauté, on produit toutes sortes de quinoa, donc le noir, le rouge, le jaune, le blanc.
Et là, est-ce que vous avez fait une de bonnes affaires aujourd'hui au marché, monsieur?
Il
y a des moments où le prix augmente.
Con esta pandemia, casi ha sido todo bajo, ¿no?
Avec la pandémie, ça a été assez longtemps très bas.
Parce que maintenant, ça y est, c'est un produit qui se vend sur les marchés internationaux. Donc, votre production à vous, monsieur, elle est sujette aux fluctuations des cours, de l'offre et de la demande sur le marché international. C'est-à-dire de nous autres qui allons l'acheter en France ou pas.
Ah, si, debe ser porque esa parte no se intermediaria, saben ellos, saben.
Nous, on ne connaît pas trop ça. Nous, on vend juste ici aux intermédiaires qui s'en occupent.
Claro.
Et c'est quoi votre prénom?
Carlos Cruz.
Carlos, depuis que le quinoa est devenu à la mode, est-ce que votre niveau de vie a augmenté, vous autres, les petits producteurs?
Si, casi si, pero mucho de las empresas, no más siempre, a las empresas no más siempre.
Oui, un petit peu, mais c'est surtout les entreprises qui ont gagné.
C'est ça, c'est les intermédiaires qui s'enrichissent toujours. C'est ça que vous dites?
Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a plus de prix, non? Que d'ici, on nous vendons plus, non?
Donc ici, en fait, on le vend à prix bas et ça augmente à chaque fois que ça passe par un intermédiaire. Et je crois que chez vous, ça se vend cher.
Ah oui, chez nous, vous savez, c'est un produit de luxe. Surtout quand il y a écrit « produit directement par des petits paysans comme vous » avec votre délicieux poncho de toutes les couleurs magnifiques et votre chapeau. Là, c'est vraiment... Moi, je ferai une photo de vous. Je ramènerai ce sac de quinoa, je le vends des fortunes en disant « Regardez mon ami producteur de quinoa.
» Claro.
On va faire des affaires tous les deux, si vous voulez. Et alors, vous êtes de quelle origine?
Aymara.
Ouais, alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, alors? Pour vous et votre village?
Más que todo, y a ver, pues ofertan para estar exportando más a otro lado con las empresas de allá de Europa.
Tout ce qu'on aimerait le plus, ce serait de pouvoir vendre directement aux étrangers et pouvoir vendre plus. Parce qu'en plus, c'est très bon pour le Covid, le quinoa.
Et maintenant, là aussi, aujourd'hui, au marché de Chayapata, tous les ingrédients, tous les produits qu'on nous a montrés juste à un moment, que ce soit la coca, que ce soit le jus de canne à sucre ou le quinoa, tout est bon pour le Covid.
Nous, más que todo, comemos quinoa y carne de llama.
Nous, on est protégés dans ma communauté. Il n'y a rien eu parce qu'on mange du quinoa et de la viande des lamas. Et là, on est protégés.
Eh ben, bonne route. Alors, on vous laisse retourner, reprendre la route jusqu'au village. Et pendant ce temps-là, il y a les gars costauds là, qui sont en train de soulever. Quantos kilos?
24.
24.
Ah oh là, on ressent la grosse liasse de billets.
Impressionnante.
Impressionnante. Bienvenue dans le marché global, Carlos. Gracias. Que le vaya bien.
Je vous le disais, en plus, on va le voir de la sécheresse et des changements climatiques, les petits producteurs de quinoa et surtout de la variété royale, qu'on cultive spécialement ici, sont retrouvés chahutés par les yo-yo de la concurrence internationale. Surtout que quand les Boliviens récoltent 500 kilos par hectare, avec des cultures traditionnelles et bio, leurs concurrents du Pérou voisin, qui n'y consacraient que 1% des terres auparavant, en produisent maintenant 6 ou 7 tonnes par hectare, avec force machine, engrais et pesticides, gagnant par là même le titre de premier producteur mondial. Alors avant d'aller dans les magnifiques champs des petits producteurs locaux, on fait un crochet à l'usine de conditionnement d'où part leur quinoa. Car il aura fallu s'organiser en coopérative, comme l'ANAPQI, l'Association Nationale des Producteurs du Quinoa, pour faire face ensemble aux règles du marché global.
50 personas. Ah. Sí. Solamente trabajadores, más personal técnico, personal profesional, estamos alrededor de 80 personas.
Et là, ce qu'on entend, c'est la sirène de l'usine de préparation du quinoa, où travaille une cinquantaine d'ouvriers. On voit les grands silos, là, gigantesques. Mais le reste est assez modeste et quand même un peu brinque-ballon, malgré tout, un peu artisanal.
Ce conteneur que nous allons en Allemagne.
On est en train de préparer un conteneur qui va partir en Europe, en Allemagne.
22 tonnes, c'est approximativement un conteneur.
22 tonnes à peu près de quinoa qui vont aller dans ce conteneur. Et là, on voit les ouvriers qui sont en train de bien de balayer pour que ce soit bien propre et bien sain.
Va salir ahora por de aquí de planta, va a ir hasta puerto de Arica.
Alors d'ici, ça va aller au port d'Arica au Chili. Après, il va être embarqué dans un bateau.
Sí, y de ahí embarca la nave y se va hasta Alemania.
Hamburgo.
Sí, Hamburgo.
Jusqu'à Hambourg en Allemagne, ça va naviguer.
Más o menos es un mes y medio.
Ça va prendre à peu près un mois et demi. Et est-ce que la spéculation sur le prix du quinoa, est-ce que la concurrence d'autres pays qui se sont mis sur ce marché-là après avoir vu que ça marchait bien, ça vous pose des soucis à vous autres?
Sí, sí, así es problemático. Actualmente se vive esa problemática porque puede que el precio.
Le problème, c'est que oui, ils ont tous commencé à produire et à vendre moins cher que nous. Parce que ici, nous, on produit de la quinoa real et c'est vrai que les gens on ne tiennent pas beaucoup compte.
Actualmente también estamos exportando a China.
Ah, on exporte aussi en Chine.
Después estamos también a Estados Unidos.
Aux États-Unis d'Amérique.
Canadá también.
Et au Canada.
Y tenemos un contrato que recién eso vamos a confirmar para exportar a Medio Oriente también.
Et on est en train de mettre au point un contrat pour pouvoir en exporter aussi au Moyen-Orient. Et dites-moi, ça c'était inimaginable il y a encore 20 ans de ça. Vous étiez les seuls à manger, à connaître le quinoa, à part quelques écolos bio européens, occidentaux.
Estamos orgullosos de que estén consumiendo quinoa.
On est très fiers en fait que le monde entier se mette à manger du quinoa.
Pero a la misma vez hay que hacer estentar de que la quinoa real es de Bolivia, ¿no? De este lado del altiplano sur de Bolivia.
Par contre, faut pas perdre de vue que le quinoa royal, bah, il vient de Bolivie, de ce coin sud de l'altiplano bolivien.
Y en ese sentido, nos gustaría de que puedan apreciar y nuestros clientes y consumidores sepan que el producto que están consumiendo es de Bolivia y si es de Anapi es mucho mejor, ¿no?
C'est pour ça qu'on veut, bien sûr, là c'est le petit quart d'heure commercial, que nos consommateurs sachent que le quinoa qu'on produit chez Anapki, c'est le vrai et c'est le bon. Muchas gracias.
Non, de qui.
Bueno, mi nombre es Nelson Poma Huarache, soy el vicepresidente de Anapki, ¿no?
Je m'appelle Nelson Poma Huarache, je suis le vice-président de la coopérative Anapki.
Totalmente orgánico, ¿no? Trabajamos con
complètement bio, d'un bout à l'autre de la chaîne.
Uh-huh. Porque vemos que allá en Europa no hay esa diferencia en el precio de lo que es un producto orgánico y un producto convencional.
Là, c'est le problème quand ces clients d'Europe viennent nous acheter à nous un Anapki, c'est qu'ils ne font pas la différence entre le quinoa bio et le quinoa conventionnel.
Constantemente, le mercado europeo nos pide a que podamos aún todavía seguir rebajando el precio de lo que es la tonelada.
Nous, chaque fois qu'on a des interlocuteurs, ils nous disent il faut que vous baissiez le prix de la tonne parce qu'on a d'autres offres, d'autres marchands de quinoa qui nous proposent des tarifs plus bas. Donc, vous vous alignez sur les leurs.
Pero no sabemos de dónde es ese producto.
Simplement, ils ne nous disent pas d'où viennent ces autres quinoa, qui les produit et dans quelles conditions.
Si ese producto es orgánico o es un producto convencional. Y a nosotros, como productores orgánicos, esto nos afecta, porque hacer una producción orgánica.
Donc, du coup, ça a des conséquences directes sur nous, parce que nous, on a beaucoup de mal, c'est beaucoup d'efforts de faire cette production bio en commerce équitable ici.
Hacer producción orgánica tiene un costo.
Ça a un coût, bien sûr, de faire du bio.
Tiene usos y costumbres en las comunidades.
Il y a aussi toutes les habitudes, toutes les coutumes qu'ont les communautés ici qui produisent cette quinoa. Si je comprends bien, Nelson, vos problèmes à vous, c'est que vous essayez de faire vivre des communautés en produisant un produit de qualité avec des méthodes sans impact sur l'environnement, en faisant des méthodes bio,
et on vous rembarre les lois, les sempiternelles lois du marché et de la concurrence.
Sí, lo que deberíamos de hacer en el mundo entero es pues darle un precio justo a lo que es la producción orgánica o al producto orgánico, ¿no?
Et nous, ce qu'on veut juste, c'est que dans le marché mondial, on fasse une place à un prix juste pour ce qui est produit par nos paysans de manière bio.
Nosotros velando la salud, ¿no? del consumidor.
Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord, avant tout, c'est la santé des consommateurs.
Sabemos que los insumos químicos provocan enfermedades.
On sait que les entrants chimiques provoquent des maladies.
No, entonces desde ANAPQI pedirles al mundo entero, a los mercados europeos, norteamericanos, a todos.
C'est pour ça qu'on nous on implore tous les acteurs mondiaux de ce marché de savoir faire la distinction entre le produit bio tel que nous le faisons et les productions issues de l'agriculture conventionnelle.
Je reviens du monde d'avant. Sur France Inter.
C'est un tout petit village au milieu des hauts plateaux. On est à 3800 mètres d'altitude. Avec des lamas, des vigognes, quelques moutons. Et puis des taches de couleurs vertes, jaunes, rouges, des espèces de plumeaux. Et c'est ça le quinoa qu'on fait pousser ici. Dans le système coopératif et associatif de l'ANAPQI avec les paysans du coin.
Je suis Eulogio Aguilar Almansa,
un des administrateurs de l'association de producteurs de quinoa et camélido.
Ah, vous faites du quinoa et des lamas.
Pourquoi créons-nous la camélido?
On élève les lamas pour récupérer les excréments de lamas pour pouvoir faire de l'engrais organique.
Et fertiliser vos champs de quinoa.
Las parcelas, eso nos ayuda harto el 100%.
Ah, sí. Y ahora, ça, c'est votre champ de quinoa.
Esta es la blanca real.
Ça, c'est le quinoa royal, ils sont blancs.
Et vous pouvez me montrer alors comment ça marche, un plant de quinoa?
Esta ya una semana, dos semanas, ya va a estar.
C'est très joli comme plante, on dirait un peu une fleur avec des teintes roses, jaunes et vertes. C'est un désert de brocoli de loin, un peu. T'as bien ? Ah, là il est en train de me montrer qu'il a, enlevé à la main deux chenilles là, qui sont en train de pondre et d'attaquer leur quinoa. Et bien entendu, comme c'est du bio, hors de question de rajouter des pesticides là-dessus. C'est ça qui nous attaque, c'est ça qui nous fait du mal. Il mange le quinoa. Il mange surtout en plus les têtes, là où c'est le meilleur. Ouais, et puis il est gordito, hein. Ah bien. Et vous, vous avez toujours cultivé du quinoa pour votre consommation aussi, pour votre production?
Sí, siempre desde nosotros, aquí siempre desde niño con mi papá.
Moi, depuis petit, je suis né ici dans cette communauté avec mes parents. Chaque année, on semait et on ramassait le quinoa.
Alors, qu'est-ce qui a changé ces dernières années avec l'engouement international pour le quinoa?
La demande mondiale a augmenté. C'est vrai qu'avant, on en plantait un tout petit peu du quinoa pour notre consommation. Ça ne me valait rien. Mais depuis que le prix a augmenté, on en produit beaucoup plus. Donc, quand le prix a augmenté, on a augmenté notre production. Mais bon, là, le prix baisse.
Et c'est difficile aujourd'hui pour vous, alors ?
Sí, pues un poco el tiempo, la helada. Cette année, par exemple, a affecté la sequía.
Oui, c'est difficile à cause du temps, avant tout. Il y a des sécheresses, il y a de plus en plus de gelées.
Ouais, donc en fait, cet engouement international pour le quinoa, pour vous, ça ne s'est pas vraiment traduit jusqu'à présent par une amélioration fondamentale de votre mode de vie et de votre niveau de vie.
Algunos, en ce moment, quand estaba en precio alto, algunos han aprovechado.
Oui, il y en a qui en ont bien profité también, quand les prix ont augmenté, mais d'autres moins.
Ah, c'est magnifique.
La nature en sa splendeur.
C'est la nature dans sa splendeur. Il y a cette espèce de cratère au milieu de ces hauts plateaux, avec le nuage qui moutonne dans un ciel bleu turquoise. Et au fond de ce cratère de quelques centaines de mètres de circonférence, on voit cet étang, cette mare rose, rose bonbon, qui est due aux crustacés qui sont dedans. Et tout autour de quinoa qui va de toutes les nuances, du vert clair au jaune jusqu'au rouge profond en passant par l'orange.
Me llamo Eduardo y bueno, soy asesor en la organización.
Je suis Eduardo, je fais partie d'ANAPQUI.
Es muy importante la quinoa para nosotros.
C'est très important le quinoa pour nous.
Creo que, como decía, la quinoa es un cultivo.
C'est une nourriture qui existe depuis des millénaires.
Millenario y
une
para
nourriture
subsistir.
De subsistance avant tout.
Se puede guardar mucho tiempo.
C'est une plante qui peut se garder longtemps.
Sí. Y bueno, posiblemente la globalización ha hecho que conozcan este secreto de los Andes, ¿no?
Et c'est sûrement la mondialisation qui a fait que ce secret des Andes était connu.
Sauf que cet engouement, ici, pour les habitants et surtout pour les agriculteurs, a eu des effets pervers et des conséquences dramatiques liées à la spéculation.
Sí, bueno, posiblemente cuando hay un desequilibrio, ¿no?, entre la oferta y la demanda y
dans un monde
aún, digamos,
où prime l'offre et la demande dans le marché libre.
Sí. Nuestro producto a la,
c'est pas étonnant
a
que notre produit ait été confronté à ces problèmes-là, ¿no?, et donc avec une forte production, une spéculation sur les prix, une manière de produire de moins en moins saine.
Sí. Y justo ahí es una alternativa, ¿no?, a ese problema, porque
promueve, c'est pour ça qu'on représente une alternative en promouvant la culture saine, bio, avec un impact social. On réorganise ce désordre-là qui a été créé avec ce boom.
Vous parlez des conséquences du changement climatique qui sont visibles ici. Alors on sait que dans d'autres zones de la Bolivie, ce sont les glaciers qui fondent, mais alors ici, on est vraiment dans l'altiplano, à 4000 mètres de hauteur, je ne vois pas de glacier, mais est-ce que vous subissez aussi, au niveau des agriculteurs, au niveau de la culture du quinoa, les impacts du changement climatique global?
Sí. Antes teníamos que sembrar cierto momento y ahora ha cambiado, ¿no?
Avant, on devait semer à un certain moment, et maintenant, ça a changé.
Sí. La gente queda un poco confundida.
Les gens ne savent plus trop comment faire, ils sont un peu perdus.
Pero la quinoa es un cultivo tan interesante que...
Le quinoa est une plante tellement incroyable que la plante a réussi elle-même à s'adapter au changement climatique et donc l'agriculteur avec.
C'est très compliqué de parler du changement climatique pour nous parce que la quinoa dépend beaucoup de les conditions climatiques.
C'est très difficile pour nous de parler du climat parce que le quinoa dépend totalement des conditions climatiques.
Qui sont ici particulièrement rudes, à 4000 mètres d'altitude, entre le gel, la chaleur, le froid, le vent. Et l'aridité de ce terrain rocailleux et volcanique.
Sí. Bueno, pueden ver una interesante naturaleza, ¿no?, en la situación en el piso ecológico que se tiene. Al exponerlo también al mundo, van a estar de alguna manera también igual que nosotros felices, ¿no?, de comer algo bueno.
Vous voyez quand même le paysage et la végétation est encore bonne. Nous, on consomme du quinoa et on espère que vous allez en consommer aussi encore plus pour être aussi sain que nous.
Ojalá.
Sí.
Gracias.
Je reviens du monde d'avant. Lithium et quinoa, les mirages de l'Eldorado bolivien.
Les paysans de la région ont vite compris qu'il ne valait mieux pas s'en remettre uniquement aux sirènes de la croissance des exportations. Partaient jusqu'alors 70% de leur production. Et ils ont maintenant rééquilibré leur offre en développant la demande intérieure, tout en créant une appellation d'origine contrôlée, Quinoa Real du Salar d'Uyuni. Et c'est vers cet autre trésor de ce coin de la cordillère des Andes qu'on poursuit notre voyage, ce gigantesque désert de sel. 10 000 km² d'un blanc immaculé. Souvenir d'un lac évaporé voilà 12 000 ans. C'est, ou c'était, l'une des principales destinations touristiques de Bolivie, que l'on a probablement tous déjà vu dans des clips et des pubs, tellement le spectacle est visuellement extravagant. Mais des gens vivent aussi dans un coin de cette carte postale, les 528 habitants du petit village de Colchani, qui depuis des générations vivent chichement du sel et qui se retrouvent malgré eux, eux aussi, emportés par une autre fièvre internationale, la course au lithium.
Niché à 3650 mètres d'altitude.
Dans le sud de la Bolivie.
Il faut qu'on décrive deux minutes où on est, parce que c'est un paysage absolument dingue qu'on a sous les yeux. Si je fais tourne sur moi, à part la grande bande de montagnes qu'on voit à l'est, là, tout autour, à perte de vue, l'horizon est blanc et bleu. Il y a le blanc du sol à 360 degrés et le bleu du ciel. C'est vraiment le monde coupé en deux.
Le plus grand désert de sel du monde.
Le plus grand désert de sel au monde.
Le Salar d'Uyuni.
Le Salar d'Uyuni.
Le Salar d'Uyuni est une mer de sel de 10 000 km².
Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a plu, des rares pluies de ces derniers jours. Et donc il y a des petites flaques sur le blanc immaculé où se réverbère le bleu absolu du ciel immense.
Un lac gigantesque recouvrait cette région.
Ici, l'eau du lac s'est retirée il y a 14 000 ans, laissant derrière elle cette interminable croûte de sel.
Par endroit, elle mesure 120 mètres d'épaisseur.
Zéro végétation, zéro vie animale, c'est vraiment un désert absolu. Et là, un peu plus loin sur le Salar, eh ben, y a un camion qui est posé là, et avec quatre bons hommes,
voilà, bonnes,
qui à coups de pelle sont en train de le charger, ce semi-remorque, de sel.
Le Salar d'Uyuni est un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Pourtant, des hommes s'y sont installés.
Je m'appelle Jorge, je suis de la communauté de Colchani. Et on est les principaux producteurs de sel du Salar d'Uyuni.
Si. Exclusivement, la communauté vit de la sel.
Alors en fait, toute la communauté vit du sel.
Se dedican a l'extraction.
Il y en a qui font l'extraction, d'autres qui s'occupent du transport ou du chargement, d'autres qui travaillent à l'usine pour le conditionnement du sel.
Et donc, vous êtes le peuple du sel, alors, si je comprends bien.
Oui, nous, on est le peuple du ciel. Donc, mes parents, mes grands-parents et tous mes ancêtres faisaient de l'extraction de sel. On a toujours fait ça.
Là,
par exemple, ce que vous voyez, d'ici 2-3 semaines, tout se sera régénéré et on pourra ramasser le sel.
Et c'est un sel qui est très pur.
Alors,
oui, notre sel est meilleur que celui du Salar de Coipasa. Il est plus pur, c'est le meilleur du monde.
D'ailleurs, on peut le goûter comme ça, là, si je le prends comme ça, le petit tas, là, je fais si je.
Si, ça peut. Acá no vive ni un bicho, ni un insecto, no vive ni un animal. Entonces, lo más
puro. Oui, s'il est très pur, tu peux le manger là comme ça directement, parce qu'il n'y a pas d'animaux, il n'y a absolument rien qui passe ici, donc tu peux y aller.
Et c'est des beaux cristaux tout blancs là, qu'on gratte un peu à même le sol. Et ça a un vrai goût bien, bien, bien fort, bien salé. Hein.
Fuerte, fuerte. Un 92% de pureza que tiene.
Et c'est, oui, c'est fort, hein, 92% de pureté.
En quechua, es cachi.
Le sel, nous, en quechua, on dit cachi.
C'est le sal, lo decimos en quechua.
Et il vient d'où ce sel? Pourquoi on est mis dans un désert blanc?
Bueno, hay diferentes historias, ¿cierto?
Alors, il y a plusieurs histoires qui se racontent.
Il y a toujours différentes histoires.
Por ejemplo, una leyenda dice que. El Tunupa, que está el volcán ahí.
Oui, par exemple, le volcan Tunupa était.
Voilà, quel est le gigantesque voilà. Volcan à l'horizon.
Era enamorada del Cusco y es la Cusuña.
Était amoureux. Entonces, de l'autre volcan Cusuña. Ils ont eu un enfant, qui est le volcan qu'on voit là.
Un hijo, y el hijo se separó.
Puis l'enfant qu'ils ont eu, Cusco, s'est séparé de ses parents, s'est éloigné.
Y la leyenda cuenta que esta es la leche del Tunupa.
Et donc, on dit que tout ce salar blanc, c'est le lait du volcan Tunupa pour alimenter son fils Cusco, qui est de l'autre côté.
Ah, es una leyenda que cuentan los ancestros, los abuelitos, ¿no?
Alors oui, c'est une légende de nos ancêtres.
Ils l'ont accommodé d'accord avec ce
qu'ils ont raconté en fonction de ce qu'ils comprenaient en fait.
C'est le lait. On est en train de marcher sur ce gigantesque désert de sel qui est le lait de la mer volcan à son petit volcan. Ça me plaît bien cette histoire.
Depuis des lunes et des milliers de lunes, cette légende accompagne les habitants du Salar. Ils voient dans cette immensité qui semble vide comme un souvenir du sein de la mère nourricière. Et depuis, les hommes ont profité des richesses immaculées offertes par le Tunupa.
Et vous gagnez combien alors avec ce sel, vous ?
Non, se gagne bien. C'est un travail pesado.
Oui, le sel, ça se vend très peu cher. Donc c'est un travail difficile et on ne gagne pas beaucoup d'argent.
Entonces, pero qué le vamos a hacer? Es una fuente de trabajo y igual hay que.
Mais c'est notre travail et on doit perpétuer ce travail que faisaient déjà nos ancêtres.
Les hommes s'activent depuis des siècles sur le grand miroir blanc. Le sel, c'est toute la richesse.
Et le plus important de ce salar,
están las salmueras de litio.
C'est qu'au fond, il y a du lithium.
Et ça, c'est le nouvel or blanc
Parce que le lithium, c'est ce qui va servir à faire les batteries, c'est ça?
Bueno, el litio es un buen portador de energía.
Le lithium, ça sert pour faire des batteries, car ça a des propriétés énergétiques incroyables.
Que hay mucha oferta por el litio.
Et en plus, la demande est en train de croître.
Por ejemplo, tenemos ofertas.
Il y a plein de gens qui sont venus et qui nous ont fait des offres. Les Allemands.
Llegaron los americanos.
Les Américains.
Llegaron los chinos. Llegaron los japoneses.
Les Japonais, les Chinois. Et là maintenant, c'est les Chiliens qui viennent.
Todos quieren venir al salar a trabajarlo.
Alors en fait, tout le monde veut venir travailler à l'usine de lithium.
Sí, tenemos, por ejemplo, acá a 80 kilómetros está la planta.
Alors à 80 kilomètres de là, vous voyez l'usine nationale de gisement de lithium bolivien. Et ils sont en phase de construction de l'usine industrielle, donc c'est en train de se faire.
Entonces nosotros como que somos los guardianes del salar.
Comme nous sommes les gardiens du salar, nous, de notre point de vue, on n'est pas totalement convaincus qu'il ne va pas y avoir de pollution et que ça ne va pas abîmer le salar.
Bueno, obviamente, ¿qué le vamos a hacer? Así es, el hombre va desarrollando y tenemos que
acomodarse. Ah oui, mais en même temps, on va se développer, c'est normal. Et revenir en arrière, c'est impossible. Et faire autrement, c'est difficile.
Ouais. Ouais, on est tous dans la même galère en fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Pues gracias, Jorge.
De nada.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'on n'a pas d'ombre en plus. Comme on n'est pas très loin de l'équateur, et comme il est à peu près midi, cette surface blanche est complètement blanche, c'est-à-dire que c'est un paysage où on n'a pas d'ombre.
Du sel à perte de vue.
Le salar d'Uyuni. À plus de 3500 mètres d'altitude.
Celui-là, il est déjà haut dans le ciel. Et à l'horizon, tout est sec, aride.
Mais voici que ces paysages longtemps immaculés sont aujourd'hui bousculés.
C'est quoi, c'est un lama qui est au milieu de la route, là? Au milieu de la route, hop, on klaxonne et il détale. Sinon, le paysage est complètement désertique, hein, tout autour.
Un no man's land qui concentre les plus grandes réserves de lithium de la planète.
Le lithium.
Le lithium.
L'un des matériaux devenus l'un des plus stratégiques de la planète.
Le lithium entre dans la fabrication des piles à haute capacité.
Pour les téléphones portables, les ordinateurs, mais surtout les batteries de voitures électriques.
On arrive à la barrière. Un puesto militar, seguridad. Ah oui, là c'est la base militaire qui garde l'usine parce que c'est une ressource stratégique.
L'ère de l'après-pétrole est une opportunité presque inespérée pour cette république andine.
Oui, bien.
Pour le directeur de l'usine et le gouvernement bolivien, aucun doute possible. Le lithium va transformer l'économie du pays.
Para mí y para los bolivianos,
pour moi et aussi pour tous les Boliviens,
el litio es nuestro oro blanco.
Le lithium, c'est notre or blanc et c'est pour ça qu'on doit en prendre soin, on doit l'exploiter d'une manière qui ne soit pas destructrice.
Y prácticamente con eso podemos convertir el Arabia Saudí de Sudamérica.
Et c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir devenir l'Arabie Saoudite du lithium.
La première touche d'eau que je vois depuis des dizaines de kilomètres, c'est-à-dire qu'auparavant tout était blanc et là on voit une succession de gigantesques bassins complètement turquoise. On a l'impression d'une carte postale de Polynésie.
Toute la production de la sales se réalise à travers de l'évaporation.
Comme vous pouvez voir ici, ce sont des piscines où on récolte le sel à partir de l'évaporation.
Tout commence dans ces immenses bassins où sont acheminées des tonnes de saumures pompées dans les nappes phréatiques du désert. Cet ingénieur est le maître des horloges de ce procédé qui prend 12 mois.
Lo primero que empezamos a producir es recuperar el sodio, ¿no?
En premier lieu, on commence par récupérer le sodium.
Luego procedemos, por ejemplo, esta piscina.
Après, dans cette piscine, on récupère le potassium.
Y luego venimos así, realizando la concentración de la salmuera.
Donc, au fur et à mesure, on les met dans des piscines, à la fin, où il n'y a plus d'eau, et c'est là qu'on récupère le lithium sous forme de cristaux.
Et là, l'horizon, ça se perd à perte de vue, mais il y a combien de bassins comme celui-ci?
Manejamos 20 lignes.
Donc, on a 20 lignes.
Cada línea tiene 8 piscines.
Et chaque ligne a 8 piscines.
Por ejemplo, una piscina
par exemple,
dialita,
une piscine de sodium,
70 hectares.
70 hectares.
70 hectares.
À medida que va cambiando, las piscinas de litio son más pequeñas.
Plus ça va, plus les piscines sont petites. Celle de lithium, c'est 1 à 2 hectares.
Es toda una cadena que tiene que pasar para producir una pequeña cantidad de lithium.
C'est toute une chaîne en fait pour arriver à produire une petite quantité de lithium.
Et alors, si je comprends bien, toute cette partie de la production ici, avec ces gros gigantesques bassins là où le ciel turquoise se réverbère, c'est les éléments qui travaillent pour vous. C'est le temps et le soleil qui font ce travail. Et vous, vous avez, en fait, vous faites rien que regarder ce qui se passe.
Ici, ce que nous faisons, c'est concentrer le lithium.
Nous, ce qu'on fait ici, c'est on concentre le lithium.
Cette concentration de lithium va jusqu'à à une plante.
Et on l'emmène à l'usine de lithium là-bas.
À côté du site d'exploitation, la Bolivie construit aujourd'hui une véritable usine.
Mi nombre es Ariel Cruz Guarachi.
Mon nom est Ariel Cruz Guarachi.
Cargo de jefe de plant.
Je suis chef de l'usine.
La Bolivie a investi dans ce complexe près d'1 milliard d'euros.
On va aller voir l'usine pilote.
L'objectif est d'extraire encore plus de lithium, mais aussi de produire un jour des batteries.
C'est un vacarme assez assourdissant dans cette usine. On voit un tapis roulant qui avance et au bout duquel tombe comme de la neige une poudre blanche. Et c'est ça, le carbonate de lithium.
Una parte se está vendiendo a grado técnico.
Alors, une partie de ce lithium, on le laisse comme ça et on le vend. Et l'autre, on le purifie pour qu'il soit adapté pour faire les batteries.
En la industrial, se tiene un objetivo de, es de 15 000 toneladas año.
L'objectif, c'est de produire 15 000 tonnes par an de carbonate de lithium.
Made in Bolivia.
Sí, en América estaríamos entre las primeras en realizar.
Oui, ici en Amérique latine, on serait les premiers à aller du puits jusqu'à la batterie et à faire tout sur la même chaîne de production.
Et ça n'aurait pas été plus simple de faire un contrat avec une multinationale allemande ou chinoise qui ont un savoir-faire, qui ont des capitaux et qui arrivent et qui vous expliquent à vous autres comment tirer profit de ces ressources naturelles qui sont chez vous. Ça n'aurait pas été plus simple d'après vous ?
Lo que principalmente se ha hecho en los gobiernos es de que
le projet était que ce soit seulement des Boliviens qui travaillent ici, que la technologie soit échafaudée et maîtrisée par les Boliviens et que toute la production et donc les revenus qui vont être faits avec ce lithium soient pour les Boliviens.
Et se va a hacer realidad este proyecto con este objetivo.
Ce n'est pas seulement un projet, c'est un rêve qui se fait réalité, car maintenant nous allons avoir à la fin de l'année 2021 une usine industrielle de chlorure de potassium et une usine industrielle de carbonate de lithium.
La Bolivie sera le premier producteur mondial de lithium.
Et le lithium pourrait devenir la principale ressource économique du pays.
De quoi assurer son avenir ?
Car à la différence de l'or pendant la colonisation espagnole, la Bolivie a réussi 7 fois à conserver ses gisements.
5 siècles après les conquistadors, un nouvel Eldorado.
Généralement, quand on se met en tête de courir après l'Eldorado, ça finit souvent mal. Et ça a d'ailleurs failli mal finir pour l'usine nationale de lithium bolivien. Au moment du renversement d'Evo Morales en octobre 2019, une des premières mesures de l'éphémère gouvernement golpiste de Jeanine Agnès, depuis chassé par les urnes, fut d'ouvrir ses ressources aux investisseurs étrangers avec un appel du pied marqué à Elon Musk, qui consomme à lui seul près de 25% de la production mondiale de lithium pour ses autos Tesla. Ce dernier s'était même fendu d'un tweet pour répondre à ceux qui critiquaient ses appétits si peu soucieux de démocratie. En gros, faudra bien vous y faire, nous renverserons qui nous voudrons, deal with it. Alors après une année de révolution de palais et une année de Covid, le chantier a repris sur le Salar d'Uyuni, avec l'espoir démesuré d'échapper à cet autre genre de prédateur. C'est ce défi que nous raconte Oscar Vargas à l'Université de La Paz.
Je m'appelle Oscar Vargas, je suis professeur à l'Université catholique ici à La Paz et j'ai travaillé dans le projet Lithium au tout début, pendant 4 ans. Je suis économiste.
La Bolivie a choisi de saisir sa chance. Parce que ses réserves, jusqu'à maintenant, elles n'ont pas été exploitées. C'est un trésor qui dort là, tranquillement, dans le Salar, jusqu'à maintenant.
Oui, jusqu'à maintenant, c'est seulement du sel. Et le sel n'a aucune valeur. Mais la valeur va augmenter au fur et à mesure qu'on purifie le lithium à un grade batterie, à un grade de matériel cathodique. Et chaque fois, le prix va être 10 fois plus. Et la Bolivie est le pays qui a les réserves les plus importantes du monde. Mais la Bolivie s'est rendue compte que le lithium, c'est la dernière chance pour sortir d'un mal développement. Parce qu'avant, les multinationales arrivent et pendant 5-10 ans, ils exploitent tout. Et une fois que c'est fini, ils s'en vont, il ne reste rien. Dans le cas du lithium, il y a clairement une politique de nationalisation.
C'est ça, parce que Oscar Vargas, d'accord, produire soi-même sa matière première pour pouvoir la vendre, ça c'est une première chose, mais le choix qui a été impulsé par Evo Morales, c'est-à-dire non seulement de faire le lithium qui va faire les batteries, mais de produire des produits finis pour avoir plus de valeur ajoutée. Et là, c'est une autre paire de manches, si je ne m'abuse.
Exact. En 2006, quand on a dit que la Bolivie va produire des batteries, tout le monde a commencé à rigoler, c'est vrai. Par exemple, le Chili, après avoir produit du cuivre pendant 20 ans, il n'a jamais été capable de produire un produit avec de la valeur ajoutée. Même maintenant, avec le lithium, l'Argentine et le Chili ne produisent pas de produits avec de valeur ajoutée. Le seul pays qui va le produire, c'est la Bolivie. Parce que la Bolivie a acheté une industrie de batteries en Chine. Tout le processus, il y avait mano, clé en main, donc il pourrait produire. Produire une batterie, ce n'est pas difficile. L'important, c'est avoir le marché et les normes. C'est directement avec Tesla, avec Volkswagen, avec Toyota qu'on doit négocier. Et si j'ai un brevet chinois, je ne veux pas pouvoir vendre en Allemagne et vice-versa.
Mais alors, vous qui êtes économiste, combien la Bolivie espère en tirer, Oscar Vargas?
Dans 4 ans, 3 000 millions de dollars par an.
Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas de nouveau coup d'État d'ici là.
Croisons les doigts.
Et là, on arrive sur une autre partie de l'usine où tout est recouvert de blanc. Et là, on voit des gars avec des masques, des combinaisons qui sont en train de passer.
Tenemos aquí unos filtros y en la parte líquida es donde ya tenemos el mayor contenido de litio.
Donc ici on a des filtres qui permettent de séparer la partie liquide, c'est là que se trouve le lithium concentré.
Ils sortent des grosses plaques de filtres.
Este es el filtro y es un residuo sólido.
C'est le résidu solide, là on voit, ça ressemble à une espèce de pâte blanchâtre, comme de la pâte à modeler. Mais c'est vrai que là, on voit que c'est expérimental parce qu'il y a 4 gars qui sont en train de gratter et d'aller s'activer pour passer chacune des lamelles du filtre. Et là, les gars sont en train de remettre les presses. Enfin, ça fait du bien de sortir du bruit et du vacarme de cette usine. Où il commence à faire chaud, sauf que quand on sort, on se retrouve à nouveau sous la chaleur de ce désert de sel à près de 4000 mètres d'altitude ici, en Bolivie. Et on continue la visite de cette usine de lithium, ingrédient essentiel pour la fabrication des batteries. Et là, on arrive dans un hangar gigantesque où je vois des gigantesques sacs de 750 kg de lithium.
Des entreprises multinationales ont voulu exploiter ce lithium.
Bueno, mi nombre es Fidel Usnayo, yo trabajo en la empresa desde el año 2013.
Je m'appelle Fidel Usnayo et je travaille ici depuis 2013, quasiment depuis le début.
Le directeur de l'usine de lithium du Salar de Uyuni, c'est lui, Fidel Usnayo.
Et là, vous êtes dans votre usine, dans votre bureau, avec derrière vous le plan de l'usine qui est en train de sortir de terre et qui pourra produire à l'échelle industrielle.
Avec une simple licence de chimie, il a trouvé la formule pour produire du carbonate de lithium après bien des recherches.
Vous avez dû vous-même trouver le savoir-faire technologique pour pouvoir produire ce lithium de qualité industrielle.
Así es. No tuvimos ninguna ayuda.
Aucune aide. Parce que c'est ça, un des principaux obstacles que vous avez eu, c'est les brevets. C'est la propriété intellectuelle sur tous les processus de fabrication.
Sí, nosotros después de varias pruebas en laboratorio,
après des essais, des erreurs, des essais, des erreurs, qu'on a réussi pour la première fois à obtenir du carbonate de lithium niveau batterie.
Tenemos reservas para más de 1000 años.
On en a pour des milliers d'années avec ce lithium.
Del salar,
on a rien que dans 5% du salar de Uyuni, plus de 21 millions de tonnes.
Et la demande devrait être multipliée par 20 d'ici à 15 ans.
Sí, sabemos, conocemos que aquí al 2025 se va a cuatriplicar.
On sait bien, d'ici 2025, la demande va être multipliée par 4 et en 2030 par 10.
Es por eso que todos están locos por tener el litio.
C'est pour ça qu'ils sont tous fous et qu'ils veulent tous du lithium.
Es que aquí en Bolivia tenemos la mayor reserva mundial de litio.
Et nous, en Bolivie, on a les plus grandes réserves mondiales de lithium.
J'imagine que vous avez été contacté par plein d'entreprises et plein de groupes internationaux qui vous ont promis monts et merveilles si vous les laissiez exploiter ces ressources et les raffiner à votre place.
todo el mundo está atrás del litio.
Tout le monde court après le lithium, il y a une course au lithium.
Es así que desde el 2013 que yo entré.
Et moi, je me souviens, quand je suis arrivé en 2013, il y avait des Coréens, des Japonais, des Français, des Allemands qui nous proposaient de s'associer avec nous, qui voulaient être nos partenaires.
Les pays potencias ou les pays qui ont déjà leurs fabriques.
Surtout des grandes puissances qui ont des fabriques de voitures électriques veulent du lithium.
Je crois même qu'il y a des Français comme M. Bolloré qui sont venus.
Si, lo que pasa es que, como toda empresa.
Oui, bien sûr. Oui, il y a Bolloré qui est venu. Et eux, tout ce qui les intéresse, c'est la première partie, c'est extraire le lithium. Et ensuite, ils l'utilisent à leur guise et ils ne construisent pas de valeur ajoutée en Bolivie et ils n'amènent pas de connaissances.
Et c'est pour ça que vous avez envoyé bouler les grands groupes comme Bolloré.
Lo que pasa es que prácticamente al litio en nuestra constitución política del Estado lo inscribieron.
Et donc dans notre nouvelle constitution de 2009, il est écrit que le lithium est une ressource stratégique pour la Bolivie.
Y eso quiere decir que solo el Estado boliviano,
seul l'État bolivien peut le commercialiser et l'utiliser.
Y eso es la ventaja de Bolivia, es un proyecto único en América.
Et la Bolivie, c'est un projet unique qu'on a ici, c'est le seul en Amérique latine de pouvoir faire toute la chaîne de production, de l'extraction du lithium jusqu'à la fabrication de la batterie.
Para mí y para los bolivianos, el litio es nuestro oro blanco.
Pour moi et aussi pour tous les Boliviens, le lithium, c'est notre or blanc et c'est pour ça qu'on doit l'exploiter d'une manière qui ne soit pas destructrice et en prendre soin.
Et pratiquement, con eso podemos convertir. Et l'Arabie Saoudite de Sud-Amérique.
Et c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir devenir l'Arabie Saoudite du lithium.
En réalité, c'est une nouvelle espérance pour pouvoir améliorer
l'économie. Oui, c'est notre espoir d'améliorer la situation économique de la Bolivie.
Les ganancias vont être pour l'État central.
Ce qu'on gagnera avec le lithium ira directement à l'État central qui pourra après développer l'éducation, la santé et améliorer notre niveau de vie.
Al menos, esa es la esperanza de los bolivianos, el sueño de todos los bolivianos.
Et l'espoir et le rêve de tous les Boliviens.
Es el litio.
Maintenant, c'est le lithium.
Et alors, si je reviens dans quelques années, vous allez me recevoir dans un complexe industriel énorme avec des routes magnifiques, des piscines partout.
Pero seguro que sí, vamos a tener muchas plantas gigantes.
Oui, ça, je peux vous l'assurer, on aura plusieurs usines immenses.
À l'heure où, loin de l'Altiplano, on voit en France la mise en pièces méthodique de ce que fut Europe 1, livré par M. Lagardère-Fils à M. Bolloré, qui a déjà montré ce qu'il savait faire sur Canal+, on se dirait presque que ces affreux Boliviens ont eu du flair en envoyant bouler M. Bolloré. Souhaitons-leur donc bonne route. Un grand merci à Maëlle Mariette à la traduction, à toutes celles et ceux qui nous ont accueillis en Bolivie, à Franck Poupeau, Pablo Laguna, Oscar Vargas et Patrick Riba. Retrouvez sur franceinter.fr le podcast, les liens et les photos de ce reportage réalisé par Clément Nouguier avec Martine Abba et June Loper au montage et Mister Jube à la programmation musicale.